en feignant de regarder une gravure, de parcourir un journal. Enfin, Arnoux lui disait « Êtes-vous libre demain soir ?» Il acceptait avant que la phrase fût achevée. Arnoux semblait le prendre en affection. Il lui montra l'art de reconnaître les vins, à brûler le punch, à faire des salmis de bécasse. Frédéric suivait docilement ses conseils, aimant tout ce qui dépendait de Madame Arnoux, ses meubles, ses domestiques, sa maison, sa rue. Il ne parlait guère pendant ses dîners. Il la contemplait. Elle avait à droite, contre la tempe, un petit grain de beauté. Ses bandeaux étaient plus noirs que le reste de sa chevelure et toujours comme un peu humides sur les bords. Elle les flattait de temps à autre, avec deux doigts seulement. Il connaissait la forme de chacun de ses ongles. Il se délectait à écouter le sifflement de sa robe de soie quand elle passait auprès des portes. Il lui met en cachette la senteur de son mouchoir. Son peigne, ses gants, ses bagues étaient pour lui des choses particulières, importantes comme des œuvres d'art, presque animées comme des personnes. Toutes lui prenaient le cœur et augmentaient sa passion. Il n'avait pas eu la force de la cacher à des lauriers. Quand il revenait de chez Madame Arnoux, il le réveillait comme par mégarde, afin de pouvoir causer d'elle. Des lauriers qui couchaient dans le cabinet au bois près de la fontaine poussaient un long bâillement. Frédéric s'asseyait au pied de son lit. D'abord, il parlait du dîner, puis il racontait mille détails insignifiants où il voyait des marques de mépris ou d'affection. Une fois, par exemple, elle avait refusé son bras pour prendre celui de Dietmer et Frédéric se désolait. Ah, quelle bêtise! Ou bien elle avait appelé son ami. « Vas-y gaiement alors. »« Mais je n'ose pas, » disait Frédéric. « Eh bien, n'y pense plus. Bonsoir. » Des lauriers se retournaient vers la ruelle et s'endormaient. Il ne comprenait rien à cet amour, qu'il regardait comme une dernière faiblesse d'adolescence. Et, son intimité ne lui suffisant plus, sans doute, il imagina de réunir leurs amis communs une fois la semaine. Ils arrivaient le samedi vers 9 heures. Les trois rideaux d'Algérienne étaient soigneusement tirés. La lampe et 4 bougies brûlaient. Au milieu de la table, le pot à tabac, tout plein de pipes, s'étalait entre les bouteilles de bière, la théière, un flacon de rhum et des petits fours. On discutait sur l'immortalité de l'âme. On faisait des parallèles entre les professeurs. Hussonnet, un soir, introduisit un grand jeune homme habillé d'une redingote trop courte des poignets et la contenance embarrassée. C'était le garçon qu'ils avaient réclamé au poste l'année dernière. N'ayant pu rendre à son maître le carton de dentelle perdu dans la bagarre, celui-ci l'avait accusé de vol, menacé des tribunaux. Maintenant, il était commis dans une maison de roulage. Hussonnet, le matin, l'avait rencontré au coin d'une rue, et il l'amenait, car Dussardier, par reconnaissance, voulait voir l'autre. Il tendit à Frédéric le porte-cigarette encore plein, et qu'il avait gardé religieusement avec l'espoir de le rendre. Les jeunes gens l'invitèrent à revenir. Il n'y manqua pas. Tous sympathisaient. D'abord, le règne du gouvernement avait la hauteur d'un dogme indiscutable. Martinon seul tâchait de défendre Louis-Philippe. On l'accablait sous les lieux communs traînant dans les journaux. L'embastillement de Paris, les lois de septembre, Pritchard, Lord Guizot. Si bien que Martinon se taisait, craignant d'offenser quelqu'un. En 7 ans de collège, il n'avait pas mérité de pensum, et à l'école de droit, il savait plaire au professeur. Il portait d'ordinairement une grosse redingote couleur mastic avec des claques en caoutchouc. Mais il apparut un soir dans une toilette de mariée. Gilet de velours à châle, cravate blanche, chaîne d'or. L'étonnement redoubla quand on sut qu'il sortait de chez M. d'Ambreuse. En effet, le banquier d'Ambreuse venait d'acheter au père Martinon une partie de bois considérable. Le bonhomme lui ayant présenté son fils, il les avait invités à dîner tous les deux. « Y avait-il beaucoup de truffes ?» demanda Deslauriers. « Et as-tu pris la taille à son épouse, entre deux portes, 6 coutes d'échette ?» Alors, la conversation s'engagea sur les femmes. Pellerin n'admettait pas qu'il y eût de belles femmes, et il préférait les tigres. D'ailleurs, la femelle de l'homme était une créature inférieure dans la hiérarchie esthétique. « Ce qui vous séduit est particulièrement ce qui la dégrade comme idée. » Je veux dire les seins, les cheveux. Cependant, objecta Frédéric, de longs cheveux noirs avec de grands yeux noirs. Oh, connu ! S'écria Hussonnet. Assez d'Andalouse sur la pelouse. Des choses antiques, serviteur. Car enfin, voyons, pas de blague. Une Lorette est plus amusante que la Vénus de Milo. Soyons gaulois, nom d'un petit bonhomme, et régence, si nous pouvons. Coulez, bon vin, femme, daignez sourire. Il faut passer de la brune à la blonde. Est-ce votre avis, père Dussardier ? Dussardier ne répondit pas. Tous le pressèrent pour connaître ses goûts. « Eh bien, » fit-il en rougissant, « moi, je voudrais aimer la même, toujours. » Cela fut dit d'une telle façon qu'il y eut un moment de silence, les uns étant surpris de cette candeur, et les autres y découvrant, peut-être, la secrète convoitise de leur âme. Sénécal posa sur le chambranle sa chope de bière et déclara dogmatiquement que la prostitution étant une tyrannie et le mariage une immoralité, il valait mieux s'abstenir. Deslauriers prenait les femmes comme une distraction, rien de plus. Monsieur de Sisy avait à leur endroit toute espèce de crainte. Élevé sous les yeux d'une grand-mère dévote, il trouvait la compagnie de ces jeunes gens alléchante comme un mauvais lieu et instructive comme une Sorbonne. On ne lui ménageait pas les leçons. Il se montrait plein de zèle, jusqu'à vouloir fumer, en dépit des maux de cœur qui le tourmentaient chaque fois, régulièrement. Frédéric l'entourait de soins. Il admirait la nuance de ses cravates, la fourrure de son paletot et surtout ses bottes, minces comme des gants, et qui semblaient insolentes de netteté et de délicatesse. Sa voiture l'attendait en bas dans la rue. Un soir qu'il venait de partir, et que la neige tombait, Sénécal se mit à plaindre son cocher. Puis il déclama contre les gants jaunes le Jockey Club. Il faisait plus de cas d'un ouvrier que de ces messieurs. « Moi, je travaille au moins, je suis pauvre. »« Cela se voit, » dit à la fin Frédéric, impatienté. Le répétiteur lui garda rancune pour cette parole. Mais Rejimbard ayant dit qu'il connaissait un peu Sénécal, Frédéric, voulant faire une politesse à l'ami d'Arnoux, le pria de venir aux réunions du samedi, et la rencontre fut agréable aux deux patriotes. Ils différaient, cependant. Sénécal, qui avait un crâne en pointe, ne considérait que les systèmes. Rejimbard, au contraire, ne voyait dans les faits que les faits. Ce qui l'inquiétait principalement, c'était la frontière du Rhin. Il prétendait se connaître en artillerie et se faisait habiller par le tailleur de l'école polytechnique. Le premier jour, quand on lui offrit des gâteaux, il leva les épaules dédaigneusement en disant que cela convenait aux femmes, et il ne parut guère plus gracieux les fois suivantes. Du moment que les idées atteignaient une certaine hauteur, il murmurait « Oh, pas d'utopie, pas de rêve !» En fait d'art, bien qu'il fréquentât les ateliers où quelquefois il donnait, par complaisance, une leçon d'escrime,